Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. En ces temps déroutants qui riment avec confinement, non-déplacement, voire médicaments, il devient urgent de prendre l'air par la voie littéraire. Et quitte à voyager autour de sa chambre, autant que ce soit avec un livre qui non seulement nous emmène aux quatre coins de la planète, mais surtout, que son auteur me pardonne, qui nous fasse rire, voire éclater de rire. Et c'est bien le cas ici avec ce recueil de textes qui, à travers une trentaine de pays, nous raconte les péripéties d'un globe-trotteur, un livre paru aux éditions Stock sous le titre « Envoyé un peu spécial ». Bonjour Julien Blangras.
Bonjour. Alors je vous pardonne et puis je vous remercie parce que si ça fait rire, c'est déjà gagné.
Ce n'est pas la première fois que vous nous faites partager vos pérégrination depuis Gringolante, publié en 2005, jusqu'à Dans le désert récemment, en passant par Touriste, Paradis avant liquidation et Briser la glace. Mais ici, force est d'admettre qu'elles sont encore plus savoureuses en cet immobilisme forcé, en nous ouvrant la fenêtre vers des contrées lointaines où, tel Candide, vous nous racontez le monde tel qu'il va ou ne va pas. Qu'est-ce qui vous pousse à sillonner la Terre et ses cinq continents depuis une vingtaine d'années ?
Qu'est-ce qui me pousse à voyager ? À la base, il y a quand même la curiosité, tout simplement. L'envie d'aller ailleurs pour voir comment les gens vivent. Ça, c'est vraiment le principe de base. Je crois que ça part aussi d'un rêve d'enfance géographique. Moi, quand j'étais enfant, je m'endormais avec un planisphère, à côté de mon lit. Donc, je m'endormais en regardant les noms de villes et de pays qui me faisaient rêver. Donc voilà, ça m'a toujours fasciné, la géographie, le voyage, et du coup je suis très heureux que ce soit devenu mon activité de parcourir le monde pour le raconter.
Est-ce que d'une certaine façon vous êtes devenu journaliste et reporter pour continuer de voyager ?
Oui, alors j'ai fait des études de journalisme, après j'ai commencé par journalisme culturel, puis après je suis venu au reportage, j'ai compris que c'est un métier qui pouvait faire voyager, et voilà, c'est pour ça que je me définis comme journaliste de profession et voyageur par vocation.
Donc ici sont rassemblés 30 textes environ, écrits pour la presse et réorganisés dans un mouvement géographique vers l'ouest, qui part des États-Unis, descend vers l'Amérique du Sud, passe en Australie, Japon, Inde, se poursuit sur le continent africain avant de remonter par l'Italie, l'Europe de l'Est et finir en France. Quelques étapes seulement de ces 26 pays que vous avez traversés ces dernières années. Alors, sur quels critères étaient choisies ces destinations ? Est-ce qu'elles vous étaient proposées justement dans le cadre de votre profession ou c'est vous qui vouliez aller précisément à Valparaiso, à Zanzibar, à Kinshasa ?
Alors, ça dépend, il y a un peu tout. Comme vous l'avez dit, ce livre, c'est un recueil de textes de voyage qui forment un tour du monde. C'est parfois des voyages personnels, simplement pour aller voir ailleurs si j'y étais ou pas. D'autres qui sont des commandes de journaux. Donc il y a pas mal de ces textes qui sont issus de la carte postale que je fais pour chaque numéro du magazine AR, un excellent petit magazine voyageur que je recommande chaudement. Donc voilà, c'est des voyages un peu épars qui ont été faits pour différentes raisons. Et certains ont déjà paru dans la presse, mais c'est constitué aussi d'une petite moitié d'inédits.
Et donc ces destinations, Valparaiso par exemple, parce que moi non seulement c'est un nom qui nous fait tous rêver, mais en plus vous en faites une description qui nous donne envie de nous y précipiter.
Oui, Valparaiso, je crois que ça veut dire la vallée du paradis, hein. Et puis c'est vrai que le nom est quand même génial, je place tout en haut des noms de villes qui font rêver. Ça pour le coup c'était une carte postale pour le magazine AR qui m'avait envoyé là-bas.
Et d'autres endroits où vous aviez envie d'aller, par exemple, et à partir desquels vous avez proposé un article ?
Oui, alors c'est souvent les opportunités qui déclenchent les voyages. Par exemple, il y a des sportifs extrêmes, des parapentistes qui m'ont proposé de les accompagner dans une expédition en Himalaya, au Népal, pour aller survoler en parapente une montagne qui s'appelle le Fishtail, le Machapuchare, qui est la demeure de Shiva, et qu'il est donc impossible de gravir. C'est interdit de la gravir pour des raisons raisons religieuses, mais on a le droit de la survoler. Donc j'ai accompagné cette équipe de parapentistes pour aller raconter leur aventure. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, chaque voyage naît d'une opportunité ou d'une proposition ou d'une démarche personnelle.
Quel voyageur êtes-vous, Julien Blangras? Est-ce que vous vous documentez beaucoup avant de partir ou au contraire vous vous laissez porter par la découverte sur place? Vous êtes sac à dos, valise remplie de livres à lire sur place, vous prenez des notes pendant, après?
Pour le début de votre question, c'est un peu un mélange des deux. C'est un subtil mélange de préparation et d'improvisation sur place. Il faut un peu préparer pour... quand on part sur des périodes assez courtes, si on n'a qu'une semaine pour faire un reportage, il faut avoir un peu calé les rendez-vous, préparer, s'être documenté pour être efficace. Mais il faut toujours se garder une part d'improvisation, parce que moi, ce qui m'excite dans le voyage, c'est quand même l'imprévu, l'inattendu, l'insolite, ce que je ne m'attendais pas à trouver. C'est ça, en général, qui est intéressant. Il faut se laisser du temps pour perdre du temps.
Parce qu'à vous lire, on a le sentiment d'une grande nonchalance dans vos déplacements. Alors c'est peut-être aussi une posture d'écrivain et que derrière, le voyageur, le journaliste est un peu plus quand même sérieux.
Ben, en fait, j'essaye d'avoir un équilibre entre cette nonchalance qui est un peu mon tempérament naturel. Et bon, comme c'est quand même du travail, la plupart du temps, il faut un minimum de rigueur pour ne pas se faire engueuler par les rédacteurs en chef et ramener un reportage qui tient la route et qui est intéressant pour le lecteur si possible. En gros, j'essaye de parler de choses sérieuses sur un ton léger. Voilà, pour résumer, c'est un peu ça ma démarche et ma méthode.
Alors, ce qui est très frappant dans ce recueil de textes, dans lequel on va rentrer un peu plus tout à l'heure avec des exemples en particulier, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un parti pris de ne pas raconter ce qui s'est déjà dit, de ne pas coller aux stéréotypes, comme si votre règle, en effet, c'était de ne pas fouler des sentiers déjà battus, voire ultra battus.
Alors la question des stéréotypes, c'est intéressant parce que quand on arrive quelque part, on a toujours des images, des idées préconçues. Qu'on le veuille ou non, on est habité de telle ou telle image sur la Chine, le Nigeria ou n'importe quel pays. Et donc, c'est pas grave, mais l'important, c'est de le savoir. Et pour pouvoir après jongler un peu avec ces stéréotypes, voir ce qui est vrai, voir ce qui est pas vrai, voir ce qui est de l'ordre du cliché. Parfois, le cliché se vérifie à peu près sur place. Voilà, donc je crois qu'il faut juste être conscient de ça et puis après aller chercher au-delà justement de ces stéréotypes.
Et raconter des choses nouvelles ?
Oui, si possible. Tout ce qui est, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est inattendu et déroutant et digne d'être raconté, à mon avis. Parfois, on part dans des directions qui sont totalement pas prévues au départ.
Par exemple, donnez-nous des surprises de sujets que vous aviez préparés en amont et puis sur place qui se sont révélés extrêmement différents. Parce que vraiment, c'est très éclectique. Par exemple, vous suivez une équipe de télé-réalité. Alors, c'est pas de la télé-réalité au sens propre, c'est plutôt un camp de survie.
Voilà. Alors, il se trouve que j'accompagnais un stage de survie. C'est des Français qui partaient sur une île déserte en Indonésie, assez loin de tout. Et pour le coup, c'est moi qui l'ai filmé. Je réalisais un documentaire sur ce truc-là. Et donc, moi, j'allais tout simplement faire mon travail de réalisateur, de documentariste. Et voilà. Dans le texte que je fais, je raconte plus les marges du reportage que le reportage lui-même. Et les marges, c'est se mettre en scène en train de fixer son hamac, de tomber de son hamac, d'avoir peur un peu des varans qui courent sous le hamac la nuit, etc.
De se retrouver à chanter à tue-tête Eddie Mitchell pour faire fuir les bêtes nocturnes qui pourraient vous attaquer.
Le chef de l'expédition nous avait dit que ces varans n'étaient pas censés être dangereux, mais quand même, il valait mieux se méfier. Et que donc, pour les faire fuir, il fallait chanter. Et donc, moi, quand j'ai entendu farfouiller sous mon hamac, pour être honnête, je flippais quand même un petit peu. Donc je me suis mis à chanter et le premier truc qui m'est venu par la tête, c'est du Eddie Mitchell et ça a marché.
Les bêtes ont eu peur.
Voilà. Alors je sais pas si c'est Eddie Mitchell ou le fait que je chante pas bien du Eddie Mitchell, mais le fait est que les varans ont détalé Fissa.
Et donc c'est vrai que dans ces instantanés que vous définissez comme des cartes postales, mais c'est bien plus qu'une carte postale, évidemment, ce sont des choses vues, des choses entendues. Vous restituez toutes les situations, alors d'abord au présent, ce qui donne vraiment un sentiment d'être à vos côtés, toujours à travers des détails et pas ceux qu'on attend, et avec beaucoup d'autodérision, ces éclats de rire dont on parlait, en tout cas ce style toujours piquant, même dans les situations les plus dramatiques. Alors là, vous venez de nous en donner un exemple, ça reste cocasse. Quel est votre pire souvenir, Julien Blangras? Vraiment un événement quasi traumatisant.
Il y a une histoire terrible que je raconte de manière un peu fictionnée dans un autre livre qui est Touriste. J'accompagnais une mission scientifique au sud de Madagascar. Il y a eu une tempête dans le village isolé où on se trouvait et il y a des pêcheurs qui étaient partis en mer, qui ont disparu et qu'on n'a pas retrouvé. Donc voilà, ça c'était quand même un sale souvenir parce qu'il y a eu une quinzaine de morts quasiment sous nos yeux qu'on n'a pas pu retrouver. Donc voilà, ça c'était pas très marrant. Bon, pour revenir sur la question de l'humour, puisque vous l'évoquiez, c'est une façon évidemment justement de se protéger, hein, évidemment, des horreurs du monde, de chausser les lunettes de l'humour. Bon, après, il y a des passages où ça marche pas. Donc, par exemple, l'épisode que je viens de vous raconter, voilà, c'est pas propice à l'humour, effectivement.
Alors d'ailleurs, puisqu'on est sur les épisodes un peu plus dramatiques, mais à nouveau que vous restituez avec beaucoup d'humour, il y a cette scène quand vous êtes au Cap Horn, qui est un lieu hautement dangereux. Voici ce que vous écrivez, page 58, Julien Blangras. Le Cap Horn et ses conditions extrêmes ont causé plus de 800 naufrages et ôté la vie à une dizaine de milliers de marins. Je suis ici, c'est bien la preuve que je suis un baroudeur, chevronné, membre du club restreint des Cap Horniers. Je vais pouvoir faire le malin dans les dîners. Ah, il va moins faire le fier, le type qui se la raconte avec son trek pourri en Himalaya. Fermez les guillemets. Bien sûr, c'est très drôle, mais je me demande si ça en dit pas long aussi sur une espèce de concurrence qui pourrait y avoir entre les voyageurs et ce côté testostérone où chacun flambe en racontant ses faits d'armes.
Oui, bah, je me moque un peu de ça, justement. C'est d'autant plus marrant que quelques mois après, je suis allé faire un trek dans l'Himalaya que je raconte dans ce livre. Moi, franchement, je suis pas trop dans la concurrence, tout simplement parce que moi, je suis pas un vrai aventurier. J'accompagne des gens qui sont des aventuriers. Quand je vais survoler le Machu Picchu au Népal, je suis passager et il y a un vrai sportif qui pilote. Quand je vais en Iran faire de l'escalade sur glace, voilà, je suis des gens et je raconte leurs histoires. Quand je vais au Cap Horn, pour le coup, j'étais même sur un bateau de croisière expédition, comme on appelle ça. Donc, pour le coup, c'était pas vraiment l'aventure. Mais voilà, il y a un petit parfum d'aventure que je m'amuse à raconter comme ça.
Et une conception toute personnelle du voyage. Parce que finalement, on vous voit danser, on vous voit boire, on vous voit papoter à droite et à gauche. Enfin, il y a quelque chose quand même d'un peu décontracté par rapport aux autres récits de voyage qu'on lit habituellement.
Oui, mais l'écueil du récit de voyage traditionnel, c'est parfois d'être un petit peu pompeux. Moi, j'essaye d'éviter ça. Et le fait, tout simplement, de raconter les fêtes qu'on fait, les gens qu'on rencontre très simplement, bah, c'est la vie, c'est le quotidien du voyage. Et puis, j'ai une politique du fragment pour raconter le monde. C'est-à-dire que j'essaye de partir du détail pour montrer l'ensemble. C'est l'histoire de la goutte d'eau qui révèle la nature de l'océan. Donc oui, raconter une conversation de comptoir avec le poivreau du coin, je considère que c'est pas moins intéressant qu'une discussion avec un ministre. Ça peut m'en dire autant sur la réalité d'un pays, d'un territoire.
Et ça relativise beaucoup de choses.
Ça relativise pas mal de choses. Et puis je crois que la qualité du reporter, c'est d'être à l'aise partout et avec tout le monde. Enfin, de savoir se glisser, s'immiscer partout et savoir adapter sa conversation justement à celle d'un pêcheur ou d'un président. Enfin, c'est juste ma méthode et ma démarche qui est pas théorisée, hein, c'est juste un truc spontané. En fait, je suis quand même assez fier d'être capable de parler à tout le monde.
En quelle langue ?
Ça, c'est un autre problème. L'anglais, notre langue véhiculaire qui permet quand même de communiquer avec la plupart des habitants de cette planète. Mais parfois, quand on est perdu au fin fond de la Chine et que les gens ne parlent pas anglais, on est un peu isolé linguistiquement. Il y a d'autres formes de communication qui se mettent en place. Et puis souvent, on se comprend ou pas.
On va faire une pause musicale avec vous, Julien Blangras. Alors, on pourrait écouter une des nombreuses références que vous citez. En vrac, hein. Kurt Cobain, Freddie Mercury, plusieurs fois. George Michael, Eddie Mitchell, on l'a déjà mentionné. Michel Sardou, Led Zeppelin, Renaud. Myriam Makeba, Pachou, une rappeuse indienne. Chingiz, c'est du rap d'Azerbaïdjan.
Ouais, c'est ça.
Ou encore Fela Kuti, voire La Traviata.
D'accord, je précise quand même que je préfère Fela Kuti et Michel Sardou. Hein.
Alors ça tombe très bien, parce que j'avais envie en effet qu'on entende avec vous un morceau de Fela Kuti, cet artiste nigérian, d'autant plus que vous avez rencontré son fils, qui sera l'occasion de poursuivre notre conversation tout à l'heure.
Toba Fela Weho me low my low. If you want to go wash, now what are you going to use? To pas faire ses bêtes, oh me low my low. If you want to cook soup, now what are you going to use? To rebound bono, oh me lerore. If your head is hot, now what are you cool on? Tomo bandagba, oh me low my low. If your child is grow, now what are you going to use? If water kill your child, now what are you going to use?
Sur ce morceau de Fela Kuti, nous reprenons sur RFI dans Littérature sans frontières notre conversation avec Julien Blangras, notre guide aujourd'hui, avec qui nous parcourons le monde grâce à ses récits de voyage dont certains viennent d'être rassemblés sous le titre Envoyé, un peu spécial aux éditions Stock. Arrêtons-nous un instant, si vous le voulez bien, avec vous sur le continent africain que vous restituez ici à travers plusieurs pays, l'île de Zanzibar, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Congo RDC, Cameroun et le Swaziland, enfin pardon,
l'Eswatini.
L'Eswatini,
oui, car le
désormais,
pays a changé de nom récemment.
Où clairement vous avez assisté à un événement assez inouï, la danse des roseaux. Il faut que vous nous racontiez ça.
Alors ça, c'est un reportage que je rêvais de faire depuis longtemps et que j'ai fait il y a un an ou deux pour la revue Longcourt, que je salue ici d'ailleurs. Donc la danse des roseaux, ça se passe dans ce pays qui s'appelait donc le Swaziland, qui est la dernière monarchie absolue d'Afrique. C'est un tout petit pays qui est enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, qui a la particularité donc d'avoir un roi un peu fantasque à sa tête. Roi qui a une quinzaine d'épouses et qui a une vie assez, assez luxueuse et qui organise chaque année le Humlanga. Donc la danse des roseaux, c'est un événement qui consiste à inviter toutes les jeunes femmes vierges, non mariées en tout cas, du royaume à venir danser devant le roi. Donc c'est un événement culturel, c'est aussi devenu un événement touristique. Et donc j'y suis allé et c'est très impressionnant parce qu'il y a effectivement des dizaines de milliers de jeunes femmes qui dansent en costume traditionnel pendant toute une journée et ça attire pas mal de gens. Ça soulève pas mal de questions aussi parce que voilà, c'est un pays qui est extrêmement pauvre. Hein. C'est un des plus pauvres du monde, qui a un taux de prévalence du sida qui est assez dramatique. Voilà. Et donc il y a toutes ces jeunes femmes qui viennent danser pour le bon plaisir du roi. Voilà, c'est quelque chose d'assez unique et qui évidemment ne se retrouve pas ailleurs.
Et aussi entre les lignes, même si votre propos n'est jamais politique ni social, de relever quand même deux, trois petites choses qui ne vont pas.
Oui, alors j'essaye de ne pas être dans le jugement parce que ce n'est pas ma nature. Et voilà, j'essaye je vais quelque part d'éviter l'écueil du misérabilisme ou de la condescendance. Ou voilà. Donc on n'est jamais totalement neutre. Le regard qu'on porte est déjà une façon de juger quelque part. Donc, mais j'évite d'asséner les choses. Je raconte ce que je vois et la façon dont je le raconte peut permettre au lecteur de comprendre ce que je veux dire. Bon, là, pour le coup, en l'occurrence, il est évident que cette manifestation, la danse des roseaux, a un côté un peu sexiste. Mais voilà, je le souligne pas forcément dans le texte. Il suffit de le raconter pour le comprendre. Et puis le lecteur se fera son opinion lui-même parce qu'il est assez grand pour ça.
C'est vrai. Alors au Cameroun, vous avez fait, je crois, une résidence d'écriture. C'est cela, Julien Blangin ?
Oui, c'est ça.
S'est organisé comment, pourquoi ?
C'était avec l'Institut français, en partenariat avec la Fondation Gacha. qui est une fondation locale. Et c'était assez super pour moi parce que c'était une résidence itinérante. Donc, je restais une semaine, je crois, dans chaque ville. Et on a fait quatre ou cinq villes du Cameroun, qui est un pays qui est très divers, qui est à la fois équatorial et sahélien au nord, et que je connaissais pas. Donc, c'était une grande joie de voir la diversité de ce pays. Puis j'ai fait la fête aussi là-bas, c'était assez sympa.
Vous avez fait la fête, en effet, et vous avez fait aussi de belles rencontres. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que vous nous lisiez ce petit extrait. Julien Blangras, je ne veux pas vous prendre au dépourvu, mais c'est vrai que page 224, vous nous racontez votre échange avec Papa Jean-Guy.
Papa Jean-Guy.
On vous écoute.
Papa Jean-Guy tient la grande forme. Il a 71 ans et fait partie de ces personnes que l'on adopte au premier regard. Il s'occupe de la bibliothèque, tout le monde l'adore. Il incite les jeunes à lire. Il les exhorte surtout à jouer au Scrabble. Le Scrabble, c'est sa grande passion. Il a fait de la compétition. L'œil gourmand, Jean-Guy me propose une partie. Je suis écrivain, il va voir ce qu'il va voir le vieux. Une heure plus tard, alors que je recompte mes dents, il affirme « Tu es un bon joueur, mais tu t'es déconcentré sur la fin ». On passe voir Papa Jean-Guy tous les jours, on parle de tout et de rien. On monte sur une moto pour descendre quelques primus en ville, il raconte sa vie. Il était musicien dans un orchestre, il jouait à Kinshasa à la belle époque. Il a couché avec plus de 1000 femmes. Je tenais un carnet de mes conquêtes, je pouvais en mettre 3 dans mon lit le même soir. J'étais un voyou. Mais attention, depuis que j'ai rencontré mon épouse, je n'ai jamais fait un écart. Soirée passée sur la piste de danse au bar de nuit de Bangangté. Au micro, l'ambianceur ne cesse de répéter « Bienvenue à la diaspora !» en parlant de Guillaume et moi. Entre parenthèses, il s'agit de Guillaume Jean, l'écrivain voyageur qui m'accompagnait dans ce voyage. À 2h du matin, Papa Jean-Guy est toujours là, bon pied, bon oeil, tout comme Abou devant son coca. À 3h, je fais le poirier. Papa Jean-Guy a eu une belle vie. Puis, il a attrapé une infection à la jambe et il est mort, sans me laisser le temps de prendre ma revanche au Scrabble. Vous connaissez l'aphorisme d'Amadou Ampateba. En Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Quand le vieillard était bibliothécaire, c'est encore plus triste. Bon voyage, papa.
Merci beaucoup, Julien Blangras, pour cet extrait de votre livre envoyé un peu spécial, qui l'a fait le portrait d'un homme qui vous a marqué. Donc ça veut dire qu'en fait, plus que les lieux, c'est aussi les personnes qui vous intéressent, voire d'abord les personnes ?
D'abord les personnes. Les lieux sont faits par les personnes qui les habitent. Et en l'occurrence, ce papa Jean-Guy, même si notre rencontre elle a été furtive, parce que je suis resté une semaine ou 10 jours là-bas. Mais voilà, c'était une résidence d'écriture, donc je passais quand même l'essentiel de mes journées à écrire. Et puis le soir, j'allais boire quelques coups avec ce papa, hein, comme on dit là-bas, avec ce vieux monsieur qui était donc forcément plein d'histoires et qui était super sympa et féru de littérature en plus. Donc c'était une chouette rencontre. Et voilà, j'ai appris quelques semaines plus tard donc il avait disparu bêtement.
Alors vous ne faites pas que boire des coups, Julien Blangras. Des fois, vous êtes même un peu plus aventurier qu'il ne le faudrait, sans doute, puisque par exemple, vous allez à Bamenda, cette ville couvre-feu dangereuse, puisqu'il y a la guerre entre armée régulière et milices séparatistes. Vous réussissez néanmoins à vous y faire conduire, vous faites un reportage et vous dites pour finir un sujet qui n'intéresse personne en France. Est-ce que c'est une source d'amertume aussi pour vous de voir que parfois votre pays ne s'intéresse pas à ce qui se passe outre frontière ?
Oui, alors pour le coup, c'est vrai que j'avais pas réussi à vendre ce reportage qui était un peu improvisé. Après, je sais pas, peut-être que j'avais pas assez de... Enfin, je sais pas. En tout cas, j'ai constaté que le sujet n'intéressait pas à grand monde, cette crise sécessionniste des anglophones du Cameroun. C'est, je crois, hélas, souvent le cas. Là, par exemple, en ce moment, je suis en train de travailler sur la communauté comorienne de France, sur cette diaspora dont une partie de la diaspora se mobilise contre le régime sur place. Et quand je parle à ces militants-là et que je leur demande si les médias français s'intéressent à leur lutte, qui dure depuis assez longtemps, ils me disent ben, pas du tout. Bon, moi, je trouve ça intéressant, mais voilà, il y a peut-être un désintérêt des médias pour certains pays africains, alors qu'il y a des communautés qui vivent sur le sol français voilà, qui seraient légitimement intéressées par ces sujets-là.
Alors, vous vous définissez comme celui qui raconte et qui, parfois, sur place, est stimulé par ceux qui agissent. Est-ce que vous avez la tentation, Julien Blangras, d'agir un peu plus ?
Alors effectivement, moi je me considère comme un témoin et j'admire les gens qui sont plus dans l'action, mais je regarde et quand j'écris, j'agis. Voilà, c'est une façon aussi d'agir sur le monde que de proposer son regard et de transmettre ce qu'on a vu. Moi, j'ai cette chance extrême de pouvoir voyager beaucoup, de voir des choses que la plupart des gens ne voient pas. Bon, je peux considérer que ma mission, entre guillemets, modestement, c'est de transmettre ça.
Entre ces écrits et aujourd'hui, il y a eu la pandémie. Est-ce que vous pensez que ça va changer votre façon de vous déplacer maintenant, sachant que déjà aussi l'étoile du voyageur, comme vous le dites au début, a pâli ces derniers temps dans des préoccupations écologiques où prendre l'avion n'a plus si bonne presse.
Oui, c'est vrai que la crise sanitaire fait reconsidérer la façon de voyager, mais en fait, ça date d'avant. La crise climatique avait déjà un peu interrogé la façon de se déplacer. Donc oui, il y a un besoin de sobriété. Qui doit être pris en compte. Je pense pas qu'il faille arrêter totalement de prendre l'avion, mais effectivement, être sobre dans ses déplacements, c'est bien d'avoir ça en tête. Ouais.
Et sachant que vous êtes papa récemment, comme en témoignent vos livres In utero et Comme à la guerre, vous avez envie d'aller où et comment en famille? Vous allez changer votre façon de voyager?
Je sais pas encore comment on va procéder pour voyager dans les prochaines années, parce que mon fils étant encore petit, j'ai envie de lui faire découvrir le monde. Voilà, écoutez, je sais pas trop quoi répondre à cette question en vérité.
Vous n'êtes pas encore projeté en tout cas.
Pas vraiment.
Là, vous êtes assigné à domicile, comme tout le monde. Ça doit vous manquer, peut-être.
Alors, je vous cache pas que j'ai des fourmis dans les jambes, des grosses fourmis rouges, ouais, parce que j'ai effectivement cette année, j'ai pour ainsi dire pas pris d'avion, je suis pas sorti d'Europe, en tout cas, comme la plupart des gens. Mais les affaires reprennent. Je pense, j'espère qu'on pourra de nouveau voyager très très prochainement. D'ailleurs, j'ai des reportages prévus dans les prochains mois.
Et une destination de rêve? Où vous n'êtes pas encore allé?
Ah, mais moi j'ai envie d'aller partout, c'est ça mon problème.
Oui, mais vous n'êtes pas déjà allé partout?
Je suis pas allé partout, non. J'ai dû aller dans 75 pays, il y en a presque 200. Alors c'est vrai que la plupart des pays qui me faisaient vraiment rêver, ceux qui étaient tout en haut de ma liste, j'ai eu la chance de pouvoir les arpenter. Non, il y a un continent sur lequel je ne me suis pas encore rendu. C'est l'Antarctique. Et j'espère bien avoir l'occasion de le faire un jour. Et j'ai mon prochain projet de livre, si les événements le permettent. Sera de faire le plus long voyage en train du monde.
Ah, quel beau projet!
Qui part de Porto et qui arrive à Saïgon.
Vous m'emmenez?
Ben, volontiers.
Merci beaucoup, Julien Blangras. Et juste avant de nous quitter, je voudrais qu'on dise un mot avec vous de Tristan Savin, qui, je crois, est un de vos camarades, un de vos comparses de voyage, parce qu'il vient de publier Dans les forêts du paradis aux éditions Salvator. Où, je crois, justement, il voyage dans son jardin et à partir des arbres qu'il a à portée de main, il se souvient de ses périples dans les jungles plus lointaines.
Dans les forêts du monde entier, effectivement.
Et je crois que vous avez fait un bout de chemin ensemble, c'est ça?
Oui, alors Tristan Savin, c'était le rédacteur en chef, l'homme qui portait cette revue long cours, cette excellente revue long cours, revue d'écrivain voyageur que j'ai mentionné tout à l'heure. Et ben voilà, Tristan, c'est un grand voyageur et il sort cet ouvrage pour lequel j'ai signé une petite postface, qui est un excellent livre qui raconte les voyages de Tristan à travers les forêts du monde. Je le recommande.
Et à travers aussi ce qu'il y a juste autour de lui aujourd'hui, un jardin. On reste avec Voltaire, cultivons notre jardin. Merci encore. Je rappelle le titre de ce livre que je conseille au plus grand nombre, Envoyé un peu spécial. Et ça a paru aux éditions Stock.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Le goût du monde.